Chapitre 9. Venise, septembre 1833. Cimetière de Saint-Christophe. À l'Arsenal, je n'étais pas loin de l'île Saint-Christophe, qui sert aujourd'hui de cimetière. Cette île renfermait un couvent de capucins. Le couvent a été abattu, et son emplacement n'est plus qu'un enclos de forme carrée. Les tombes n'y sont pas très multipliées, ou du moins elles ne s'élèvent pas au-dessus du sol nivelé et couvert de gazon. Contre le mur de l'ouest se collent 5 ou 6 monuments en pierre. De petites croix de bois noir avec une date blanche s'éparpillent dans l'enclos. Voilà comme on enterre maintenant les Vénitiens, dont les aïeux reposent dans les mausolées des Frari et de Saint-Jean et Paul. La société, en s'élargissant, s'est abaissée. La démocratie a gagné la mort. À l'orée du cimetière, vers le levant, on voit les sépultures des Grecs schismatiques et celles des protestants. Elles sont séparées entre elles par un mur, et séparées encore des inhumations catholiques par un autre mur. Triste dissentiment, dont la mémoire se perpétue dans l'asile où finissent toutes querelles. Attenant au cimetière grec est un autre retranchement qui protège un trou où l'on jette au limbe les enfants mort-nés. Heureuse créature, vous avez passé de la nuit des entrailles maternelles à l'éternelle nuit, sans avoir traversé la lumière. Auprès de ce trou gisent des ossements bêchés dans le sol comme des racines, à mesure que l'on défriche des tombes nouvelles. Les uns, les plus anciens, sont blancs et secs, les autres, récemment déterrés, sont jaunes et humides. Des lézards courent parmi ces débris, se glissent entre les dents, à travers les yeux et les narines, sortent par la bouche et les oreilles des têtes, leur demeure ou leur nid. 3 ou 4 papillons voltigeaient sur des fleurs de mauve, entrelacées aux ossements, image de l'âme sous ce ciel qui tient de celui où fut inventée l'histoire de Psyché. Un crâne avait encore quelques cheveux de la couleur des miens. Pauvre vieux gondolier, as-tu du moins conduit ta barque mieux que je n'ai conduit la mienne ? Une fosse commune reste ouverte dans l'enclos. On venait d'y descendre un médecin auprès de ses anciennes pratiques. Son cercueil noir n'était chargé de terre qu'en dessus, et son flanc nu attendait le flanc d'un autre mort pour le réchauffer. Antonio avait fourré là sa femme depuis 15 de jours, et c'était le médecin défunt qui l'avait expédié. Antonio bénissait un dieu rémunérateur et vengeur, et prenait son mal en patience. Les cercueils des particuliers sont conduits à ce lugubre bazar dans des gondoles particulières et suivis d'un prêtre dans une autre gondole. Comme les gondoles ressemblent à des bières, elles conviennent à la cérémonie. Une nacelle plus grande, omnibus du Cocite, fait le service des hôpitaux. Ainsi se trouvent renouvelés les enterrements de l'Égypte et les fables de Caron et de sa barque. Dans le cimetière du côté de Venise s'élève une chapelle octogone consacrée à Saint-Christophe. Ce saint, chargeant un enfant sur ses épaules au gué d'une rivière, le trouva lourd. Or l'enfant était le fils de Marie, qui tient le globe dans sa main. Le tableau de l'autel représente cette belle aventure. Et moi aussi j'ai voulu porter un enfant roi, mais je ne m'étais pas aperçu qu'il dormait dans son berceau avec 10 siècles, fardeau trop pesant pour mes bras. Je remarquai dans la chapelle un chandelier de bois, le cierge était éteint, un bénitier destiné à la bénédiction des sépultures et un livret, Pars ritualis Romani pro usu ad exequianda corpora defunctorum. Quand nous sommes déjà oubliés, la religion, parente immortelle et jamais lassée, nous pleure et nous suit. Exequor fugam. Une boîte renfermait un briquet. Dieu seul dispose de l'étincelle de la vie. 2 quatrains, écrits sur papier commun, étaient appliqués intérieurement au panneau de 2 des 3 portes de l'édifice. Quivi deluom le fragilis ploglie ascose, palida morte, o pesseger tadita, etc. Le seul tombeau un peu frappant du cimetière fut élevé d'avance par une femme, qui tarda ensuite 18 ans à mourir. L'inscription nous apprend cette circonstance. Ainsi cette femme espéra en vain pendant 18 ans son sépulcre. Quel chagrin nourrit en elle ce long espoir ! Sur une petite croix de bois noir, on lit cette autre épitaphe. Virginia Acerbi Dani, 72-1824, Morta nel bacio del Signore. Les années sont dures à une belle vénitienne. Antonio me disait, quand ce cimetière sera plein, on le laissera reposer, et on enterrera les morts dans l'île Saint-Michel de Murano. L'expression était juste. La moisson faite, on laisse la terre en jachère, et l'on creuse ailleurs d'autres sillons. Chapitre 10. Venise, septembre 1833. Saint-Michel de Murano, Murano, la femme et l'enfant, gondolier. Nous sommes allés voir cet autre champ qui attend le grand laboureur. Saint-Michel de Murano est un riant monastère avec une église élégante, des portiques et un cloître blanc. Des fenêtres du couvent, on aperçoit par-dessus les portiques les lagunes et Venise. Un jardin rempli de fleurs va rejoindre le gazon, dont l'engrais se prépare encore sous la peau fraîche d'une jeune fille. Cette charmante retraite est abandonnée à des franciscains. Elle conviendrait mieux à des religieuses, chantant comme les petites élèves des Scuole de Rousseau. Heureuses celles, dit Manzoni, qui ont pris le voile saint avant d'avoir arrêté leurs yeux sur le front d'un homme. Donnez-moi là, je vous prie, une cellule pour achever mes mémoires. Fra Paolo est inhumé à l'entrée de l'église. Ce chercheur de bruit doit être bien furieux du silence qui l'environne. Pellico, condamné à mort, fut déposé à Saint-Michel avant d'être transporté à la forteresse du Spielberg. Le président du tribunal où comparut Pellico remplace le poète à Saint-Michel. Il est enseveli dans le cloître. Il ne sortira pas, lui, de cette prison. Non loin de la tombe du magistrat est celle d'une femme étrangère. Mariée à l'âge de 22 ans au mois de janvier, elle décéda au mois de février suivant. Elle ne voulut pas aller au-delà de la lune de miel. L'épitaphe porte « Si, revedremo ». Si c'était vrai, arrière ce doute, arrière la pensée qu'aucune angoisse ne déchire le néant. Athée, quand la mort vous enfoncera ses ongles au cœur, qui sait si dans le dernier moment de connaissance, avant la destruction du moi, vous n'éprouverez pas une atrocité de douleur capable de remplir l'éternité. Une immensité de souffrance dont l'être humain ne peut avoir l'idée dans les bornes circonscrites du temps. Ah oui, si revedremo. J'étais trop près de l'île et de la ville de Murano pour ne pas visiter les manufactures d'où vinrent à Combourg les glaces de la chambre de ma mère. Je n'ai point vu ces manufactures maintenant fermées. Mais on a filé devant moi, comme le temps file notre fragile vie, un mince cordon de verre. C'était de ce verre qu'était faite la perle pendante au nez de la petite Iroquoise du sceau de Niagara. La main d'une Vénitienne avait arrondi l'ornement d'une sauvage. J'ai rencontré plus beau que Mila. Une femme portait un enfant emmailloté. La finesse du teint, le charme du regard de cette Muranaise se sont idéalisés dans mon souvenir. Elle avait l'air triste et préoccupée. Si j'eusse été Lord Byron, l'occasion était favorable pour essayer la séduction sur la misère. On va loin ici, avec un peu d'argent. Puis j'aurais fait le désespéré et le solitaire au bord des flots, enivré de mon succès et de mon génie. L'amour me semble autre chose. J'ai perdu de vue René depuis maintes années, mais je ne sais s'il cherchait dans ses plaisirs le secret de son ennui. Chaque jour après mes courses, j'envoyais à la poste et il n'y s'y trouvait rien. Le comte Griffi ne me répondait point de Florence. Les papiers publics permis dans ce pays d'indépendance n'auraient pas osé dire qu'un voyageur était descendu au Lion Blanc. Venise, où sont nées les gazettes, et réduit à lire l'affiche qui annonce sur le même placard l'opéra du jour et l'exposition du Saint-Sacrement. Les Aldes ne sortiront point de leur tombeau pour embrasser dans ma personne le défenseur de la liberté de la presse. Il me fallait donc attendre. Rentré à mon auberge, je dînai en m'amusant de la société des gondoliers stationnée, comme je l'ai dit, sous ma fenêtre à l'entrée du Grand Canal. La gaieté de ces fils de Néré ne les abandonne jamais. Vêtus du soleil, la mer les nourrit. Ils ne sont pas couchés et désœuvrés comme les Lazzaroni à Naples. Toujours en mouvement, ce sont des matelots qui manquent de vaisseaux et d'ouvrages, mais qui feraient encore le commerce du monde et gagneraient la bataille de Lépante, si le temps de la liberté et de la gloire vénitienne n'était passé. À 6 heures du matin, ils arrivent à leurs gondoles attachées, la proue à terre, à des poteaux. Alors ils commencent à gratter et laver leurs barquettes au traghetti, comme des dragons étrient, brossent et épongent leurs chevaux au piquet. La chatouilleuse cavale marine s'agite, se tourmente au mouvement de son cavalier qui puise de l'eau dans un vase de bois, la répand sur les flancs et dans l'intérieur de la nacelle. Il renouvelle plusieurs fois l'aspersion, ayant soin d'écarter l'eau de la surface de la mer pour prendre dessous une eau plus pure. Puis il frotte les avirons, éclaircit les cuivres et les glaces du petit château noir, il épouste les coussins, les tapis, et fourbit le fer taillant de la proue. Le tout ne se fait pas sans quelques mots d'humeur ou de tendresse, adressés dans le joli dialecte vénitien à la gondole quinteuse ou docile. La toilette de la gondole achevée, le gondolier passe à la sienne. Il se peigne, secoue sa veste et son bonnet bleu, rouge au gris, se lave le visage, les pieds et les mains. Sa femme, sa fille ou sa maîtresse lui apportent dans une gamelle une miscellanée de légumes, de pain et de viande. Le déjeuner fait, chaque gondolier attend en chantant la fortune. Il l'a devant lui, un pied en l'air, présentant son écharpe au vent et servant de girouette au haut du monument de la douane de mer. A-t-elle donné le signal ? Le gondolier favorisé, l'aviron levé, part debout à l'arrière de sa nacelle, de même qu'Achille voltigeait autrefois, ou qu'un écuyer de Franconi galope aujourd'hui debout sur la croupe d'un destrier. La gondole, en forme de patin, glisse sur l'eau comme sur la glace. Si astati, sta longo, en voilà pour toute la journée. Puis viennent la nuit, et la calier verra mon gondolier chanter et boire avec la zitellia, le demi-sequin que je lui laisse en allant, très certainement, remettre Henri V sur le trône. Chapitre 11. Venise, septembre 1833. Les Bretons et les Vénitiens. Déjeuner sur le quai des Esclavons. Mesdames à Trieste. Je cherchais, en me réveillant, pourquoi j'aimais tant Venise, quand tout à coup je me suis souvenu que j'étais en Bretagne. La voix du sang parlait en moi. N'y avait-il pas, au temps de César, en Armorique, un pays des Vénètes, Civitas Venetum, Civitas Venetica? Strabon n'a-t-il pas dit qu'on disait que les Vénètes étaient descendants des Vénètes gaulois? On a soutenu contradictoirement que les pêcheurs du Morbihan étaient une colonie de pescatori de Palestine. Venise serait la mère et non la fille de Vannes. On peut arranger cela en supposant, ce qui d'ailleurs est très probable, que Vannes et Venise sont accouchées mutuellement l'une de l'autre. Je regarde donc les Vénitiens comme des Bretons. Les gondoliers et moi, nous sommes cousins et sortis de la corne de la Gaule, cornu Galliae. Tout réjoui de cette pensée, je suis allé déjeuner dans un café sur le quai des Esclavons. Le pain était tendre, le thé parfumé, la crème comme en Bretagne, le beurre comme à la Prévalet. Car le beurre, grâce au progrès des Lumières, s'est amélioré partout. J'en ai mangé d'excellent à Grenade. Le mouvement d'un port me ravit toujours. Des maîtres de barque faisaient un pique-nique. Des marchands de fruits et de fleurs m'offraient des cédrats, des raisins et des bouquets. Des pêcheurs préparaient leurs tartanes. Des élèves de la marine, descendant en chaloupe, allaient aux leçons de manœuvre à bord du vaisseau amiral. Des gondoles conduisaient des passagers au bateau à vapeur de Trieste. C'est pourtant ce Trieste qui pensa me faire sabrer sur les marches des Tuileries par Bonaparte, comme il m'en menaça lorsque, en 1807, je m'avisais d'écrire dans le Mercure « Il nous était réservé de retrouver au fond de la mer Adriatique le tombeau de deux filles de roi dont nous avions entendu prononcer l'oraison funèbre dans un grenier à Londres. Ah, du moins la tombe qui renferme ces nobles dames aura vu une fois interrompre son silence. Le bruit des pas d'un Français aura fait tressaillir deux Françaises dans leur cercueil. Les respects d'un pauvre gentilhomme à Versailles n'eussent été rien pour des princesses. La prière d'un chrétien en terre étrangère aura peut-être été agréable à des saintes. » Fin des guillemets. Il y a, ce me semble, quelques années que je sers les Bourbons. Ils ont éclairé ma fidélité, mais ils ne la lasseront pas. Je déjeune sur le quai des Esclavons en attendant l'exilé. Chapitre 12. Venise, septembre 1833. Rousseau et Byron. De ma petite table, mes yeux errent sur toutes les rades. Une brise du large rafraîchit l'air. La marée monte, un trois-mâts entre. Le Lido d'un côté, le palais du Doge de l'autre, les lagunes au milieu, voilà le tableau. C'est de ce port que sortirent tant de flottes glorieuses. Le vieux Dandolo en partit dans la pompe de la chevalerie des mers, dont Ville Hardouin, qui commença notre langue et nos mémoires, nous a laissé la description. Guillemets. Et quand les nefs furent chargées d'armes, et de viandes, et de chevaliers, et de sergentes, et l'ISQ furent portendus environ de bord, et des chaldéales au banc, des nefs, et les bannières dont il avait tant de belles. Néon que plus belle estoire, flotte, ne partit de nul port. » Fin des guillemets. Ma scène d'un matin à Venise me fait encore souvenir de l'histoire du capitaine Olivet et de Zulietta, si bien racontée. Guillemets. La gondole aborde, dit Rousseau, et je vois sortir une jeune personne éblouissante, fort coquettement mise et fort leste, qui, dans trois sauts, fut dans la chambre. Et je la vis établie à côté de moi avant que j'eusse aperçu qu'on y avait mis un couvert. Elle était aussi charmante que vive, une brunette de 20 ans au plus. Elle ne parlait qu'italien. Son accent seul eût suffi pour me tourner la tête. Tout en mangeant, tout en causant, elle me regarde, me fixe un moment, puis s'écriant « Bonne Vierge, ah, mon cher Brémond, qu'il y a longtemps que je ne t'ai vu !» se jette entre mes bras, colle sa bouche contre la mienne et me serre à m'étouffer. Ses grands yeux noirs à l'oriental lançaient dans mon cœur des traits de feu. Et quoique la surprise fît d'abord quelque diversion, la volupté me gagna très rapidement. Elle nous dit que je ressemblais à s'y tromper à M. de Brémond, directeur des douanes de Toscane, qu'elle avait raffolé de ce M. de Brémond, qu'elle en raffolait encore, qu'elle l'avait quitté parce qu'elle était une sotte, qu'elle me prenait à sa place, qu'elle voulait m'aimer parce que cela lui convenait, qu'il fallait par la même raison que je l'aimasse tant que cela lui conviendrait, et que, quand elle me planterait là, je prendrais patience, comme avait fait son cher Brémond. Ce qui fut dit, fut fait. Le soir, nous la ramenâmes chez elle. Tout en causant, je vis deux pistolets sur sa toilette. « Ah ah, » dis-je en prenant un, « voici une boîte à mouches de nouvelle fabrique. Pourrait-on savoir quel en est l'usage ?» Elle nous dit, avec une naïveté fière qui la rendait encore plus charmante, « quand j'ai des bontés pour des gens que je n'aime point, je leur fais payer l'ennui qu'ils me donnent. Rien n'est plus juste. Mais en endurant leurs caresses, je ne veux pas endurer leurs insultes, et je ne manquerai pas le premier qui me manquera. » En la quittant, j'avais pris son heure pour le lendemain. Je ne la fis pas attendre. Je la trouvai in vestito di confidenza, dans un déshabillé plus que galant, qu'on ne connaît que dans les pays méridionaux, et que je ne m'amuserai pas à décrire, quoique je me le rappelle trop bien. Je n'avais point d'idée des voluptés qui m'attendaient. J'ai parlé de Madame de L dans les transports que son souvenir me rend quelquefois encore. Mais qu'elle était vieille et laide et froide auprès de Masulietta. Ne tâchez pas d'imaginer les grâces et les charmes de cette fille enchanteresse, vous resteriez trop loin de la vérité. Les jeunes vierges des cloîtres sont moins fraîches, les beautés du sérail sont moins vives, les houris du paradis sont moins piquantes. Fin des guillemets. Cette aventure finit par une bizarrerie de Rousseau et le mot de Zulietta.
Lascia le donne e studia la matematica.
Lord Byron livrait aussi sa vie à des Vénus payées. Il remplit le palais Mocenigo de ces beautés vénitiennes réfugiées, selon lui, sous les fazioli. Quelquefois, troublé de sa honte, il fuyait et passait la nuit sur les eaux, dans sa gondole. Il avait pour sultane favorite Margherita, surnommée, de l'état de son mari, la Fornarina. Brune, grande, c'est Lord Byron qui parle. Tête vénitienne, de très beaux yeux noirs, et 22 ans. Un jour d'automne, allant au Lido, nous fûmes surpris par une bourrasque. Au retour, après une lutte terrible, je trouvai Margherita en plein air sur les marches du palais Mocenigo, au bord du grand canal. Ses yeux noirs étincelaient à travers ses larmes. Ses longs cheveux de jais, détachés, trempés de pluie, couvraient ses sourcils et son sein. Exposée en plein à l'orage, le vent qui s'engouffrait sous ses habits et sa chevelure les roulait autour de sa taille élancée, l'éclair tourbillonnait sur sa tête, et les vagues mugissaient à ses pieds. Elle avait tout l'aspect d'une Médée descendue de son char ou d'une Sibylle conjurant la tempête qui rugissait alentour. Seule chose vivante à portée de voix dans ce moment, excepté nous-mêmes. Me voyant sain et sauf, elle ne m'attendait pas pour me souhaiter la bienvenue, mais vociférant de loin, « Ah, Candelia Madonna, d'un questa el tempo per andar al Lido ?»« Ah, chien de la Vierge, est-ce là un temps pour aller au Lido ?» Fin des guillemets. Dans ces deux récits de Rousseau et de Byron, on sent la différence de la position sociale, de l'éducation et du caractère des deux hommes. À travers le charme du style de l'auteur des Confessions, perce quelque chose de vulgaire, de cynique, de mauvais ton, de mauvais goût. L'obscénité d'expression particulière à cette époque gâte encore le tableau. Zulietta est supérieure à son amant en élévation de sentiment et en élégance d'habitude. C'est presque une grande dame, éprise du secrétaire infime d'un ambassadeur mesquin. La même infériorité se retrouve quand Rousseau s'arrange pour élever à frais communs, avec son ami Cario, une petite fille de 11 ans, dont il devait partager les faveurs, ou plutôt les larmes. Lord Byron est d'une autre allure. Il laisse éclater les mœurs et la fatuité de l'aristocratie, pair de la Grande-Bretagne, se jouant de la femme du peuple qui l'a séduite. Il l'élève à lui par ses caresses et par la magie de son talent. Byron arriva riche et fameux à Venise. Rousseau y débarqua pauvre et inconnu. Tout le monde sait le palais qui divulgua les erreurs de l'héritier noble du célèbre commodore anglais. Aucun cicérone ne pourrait vous indiquer la demeure où cacha ses plaisirs le fils plébéien de l'obscur horloger de Genève. Rousseau ne parla pas même de Venise. Il semble l'avoir habitée sans l'avoir vue. Byron l'enchantait admirablement. Vous avez vu dans ses mémoires ce que j'ai dit des rapports d'imagination et de destinée qui semblent avoir existé entre l'historien de René et le poète
de Childe Harold.
Ici, je signale encore une de ces rencontres tant flatteuses à mon orgueil. La brune Fornarina de Lord Byron. N'a-t-elle pas un air de famille avec la blonde Velléda des Martyrs, son aînée, guillemets. Cachée parmi les rochers, j'attendis quelque temps sans voir rien paraître. Tout à coup, mon oreille est frappée des sons que le vent m'apporte au milieu du lac. J'écoute et je distingue les accents d'une voix humaine. En même temps, je découvre un esquif suspendu au sommet d'une vague. Il redescend, disparaît entre deux flots, puis se montre encore sur la cime d'une lame élevée. Il approche du rivage. Une femme le conduisait. Elle chantait en luttant contre la tempête et semblait se jouer dans les vents. On eût dit qu'ils étaient sous sa puissance, tant elle paraissait les braver. Je la voyais jeter tour à tour en sacrifice dans le lac des pièces de toile, des toisons de brebis, des pains de cire et de petites meules d'or et d'argent. Bientôt elle touche à la rive, s'élance à terre, attache sa nacelle au tronc d'un saule et s'enfonce dans le bois en s'appuyant sur la rame de peuplier qu'elle tenait à la main. Elle passa tout près de moi sans me voir. Sa taille était haute, une tunique noire, courte et sans manches, servait à peine de voile à sa nudité. Elle portait une faucille d'or suspendue à une ceinture d'airain, et elle était couronnée d'une branche de chêne. La blancheur de ses bras et de son teint, ses yeux bleus, ses lèvres de rose, ses longs cheveux blonds qui flottaient épars, annonçaient la fille des Gaulois, et contrastaient par leur douceur avec sa démarche fière et sauvage. Elle chantait d'une voix mélodieuse des paroles terribles, et son sein découvert s'abaissait et s'élevait comme l'écume des flots. Fin des guillemets. Je rougirais de me montrer entre Byron et Jean-Jacques, sans savoir ce que je serais dans la postérité, si ces mémoires devaient paraître de mon vivant. Mais quand ils viendront en lumière, j'aurai passé, et pour jamais, ainsi que mes illustres devanciers, sur ce rivage étranger. Mon ombre sera livrée au souffle de l'opinion, vain et léger, comme le peu qui restera de mes cendres. Rousseau et Byron ont eu à Venise un trait de ressemblance. Ni l'un ni l'autre n'a senti les arts. Rousseau, doué merveilleusement pour la musique, n'a pas l'air de savoir qu'il existe près de Giulietta des tableaux, des statues, des monuments. Et pourtant, avec quel charme ces chefs-d'œuvre se marient à l'amour dont ils divinisent l'objet et augmentent la flamme. Quant à l'heure de Byron, il abhorre l'infernal éclat des couleurs de Rubens. Il crache sur tous les sujets des saints dont les églises regorgent. Il n'a jamais rencontré tableau ou statue approchant d'une lieue de sa pensée. Il préfère à ces arts imposteurs la beauté de quelques montagnes, de quelques mers, de quelques chevaux, d'un certain lion de Morée et d'un tigre qu'il vit souper dans Exeter Change. N'y aurait-il point un peu de parti pris dans tout cela? Que d'affectation et de forfanterie! Chapitre 13. Venise, septembre 1833. Beaux génies inspirés par Venise. Mais quelle est donc cette ville où les plus hautes intelligences se sont donné rendez-vous? Les unes l'ont elles-mêmes visitée, les autres y ont envoyé leurs muses. Quelque chose aurait manqué à l'immortalité de ses talents s'ils n'eussent suspendu des tableaux à ce temple de la volupté et de la gloire. Sans rappeler encore les grands poètes de l'Italie, les génies de l'Europe entière y placèrent leurs créations. Là respire cette Desdemona de Shakespeare, bien différente de la Giulietta de Rousseau et de la Margherita de Byron. Cette pudique vénitienne qui déclare sa tendresse à Othello. Si vous avez un ami qui m'aime, apprenez-lui à raconter votre histoire. Cela me pénétrera d'amour pour lui. Là paraît cette Belvidera d'Otway qui dit à Jaffier, « Oh, smile, as when our loves were in their spring. Oh, lead me to some desert wide and wild, barren as our misfortunes, where my soul may have its vent, where may tell aloud to the high heavens and every listening planet, with what a boundless stock my bosom's fraught. Where may throw my eager arms about thee, give loose to love with kisses kindling joy, and let off all the fire that's in my heart. Oh, souris-moi comme quand nos amours étaient dans leur printemps. Conduis-moi à quelque désert vaste, sauvage, stérile comme nos malheurs,
où mon âme puisse respirer,
où je puisse à grands cris dire aux cieux élevés et aux astres écoutants de quelle richesse sans borne mon sein est chargé, où je puisse jeter mes bras impatients autour de toi, donner passage à l'amour par des baisers qui rallument la joie et laisser aller tout le feu qui est dans mon cœur. Goethe de notre temps a célébré Venise, et le gentil Marot, qui le premier fit entendre sa voix au réveil des muses françaises, se réfugia au foyer du Titien. Montesquieu écrivait « On peut avoir vu toutes les villes du monde et être surpris en arrivant à Venise. » Lorsque dans un tableau trop nu, l'auteur des Lettres persanes représente une musulmane abandonnée dans le paradis à deux hommes divins, ne semble-t-il pas avoir peint la courtisane des Confessions de Rousseau et celle des Mémoires de Byron ? N'étais-je pas entre mes deux Floridiennes, comme Anaïs entre ses deux anges ? Mais les filles peintes et moi, nous n'étions pas immortelles. Madame de Staël livre Venise à l'inspiration de Corinne. Celle-ci écoute le bruit du canon qui annonce l'obscur sacrifice d'une jeune fille. Avis solennel, qu'une femme résignée donne aux femmes qui luttent encore contre le destin. Corinne monte au sommet de la tour Saint-Mars, contemple la ville et les flots, tourne les yeux vers les nuages du côté de la Grèce. La nuit, elle ne voit que le reflet des lanternes qui éclairent les gondoles. On dirait des ombres qui glissent sur l'eau, guidées par une petite étoile. Oswald part, Corinne s'élance pour le rappeler.
Une pluie terrible commençait alors.
Le vent le plus violent se faisait entendre. Corinne descend sur le bord du canal. La nuit était si obscure qu'il n'y avait pas une seule barque. Corinne appelait au hasard des bateliers qui prenaient ses cris pour des cris de détresse, de malheureux qui se noyaient pendant la tempête. Et néanmoins personne n'osait approcher, tant les ondes agitées du grand canal étaient redoutables. Voilà encore la Margarita de Lord Byron. J'éprouve un plaisir indicible à revoir les chefs-d'œuvre de ces grands maîtres dans le lieu même pour lequel ils ont été faits. Je respire à l'aise au milieu de la troupe immortelle, comme un humble voyageur admis au foyer d'une riche et belle famille. Voir dans les textes retranchés le livre sur Venise. Thank you.